VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 universelle du vendredi 4 mai 2018. Abdourahman Dia en direct de Washington, voici les titres. Journée ville morte à Bangui à l'appel de la société civile alors que des informations font état d'une avancée des ex-rebelles Séléka vers la capitale. Promulgation de la nouvelle constitution tchadienne, le président Idriss Déby en profite pour amnistier les Tchadiens ayant fui le pays. Les autorités burundaises annoncent la suspension de la Voix de l'Amérique et de la BBC dans le pays alors que la campagne référendaire bat son plein. Le président élu de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en Côte d'Ivoire, voisine pour sa première visite à l'étranger depuis son élection. Et en Syrie, des rebelles dans le centre du pays remettent leurs armes lourdes aux forces loyalistes en vertu d'un accord avec le régime. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bangui, capitale de la Centrafrique, plongée dans la crainte d'une nouvelle attaque armée, les combattants rebelles de l'ex-Séléka, stationnés depuis plusieurs jours à Kagabandoro, dans le nord du pays, ont progressé aujourd'hui vers la ville de Dekoa, alors que la société civile avait appelé à une journée ville morte à Bangui, où nous retrouvons Freeman Sipila.
Paralysé depuis ce matin par le mot d'ordre du groupe de travail de la société civile appelant une journée ville morte, Bangui s'embourbe dans une psychose généralisée. Face à la progression des ex-Séléka vers Dekoa, ville située à plus de 200 km au nord de Bangui, la tension monte et le pays est menacé d'un nouvel embrasement. À l'Assemblée nationale, où les députés interpellaient ce vendredi le gouvernement, les propos ont été durs vis-à-vis des autorités centrafricaines et de la MINUSCA. Comment comprendre que ni le gouvernement ni les Nations Unies n'arrivent pas à empêcher les combattants de l'ex-Séléka qui veulent coûte que coûte replonger le pays dans le chaos, s'interrogent les élus de la nation. Mercredi, à l'issue d'une rencontre avec le cardinal Zapalainga, archevêque de Bangui, le président Faustin Akonjo Touadéra a déclaré ceci.
Je leur dis qu'ils ne réussiront pas parce qu'ils trouveront le peuple centrafricain devant eux. Ils trouveront le président de la République, ils trouveront les forces de sécurité aussi. Parce que ce qui s'est passé en 2013, ils veulent ramener cela. Mais nous disons non.
Comment le chef de l'État compte-t-il tenir à sa parole du moment où l'armée non encore opérationnelle est substituée par la MINUSCA ? À Bangui et dans certaines régions, même des civils se préparent à se défendre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby a promulgué aujourd'hui la nouvelle constitution consacrant la 4e République. Un texte qui renforce les pouvoirs du président. André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
L'autre nouvelle que les filles du Tchad appellent de tout leur vœu commence. La 4e République entame ses premières heures.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, promulguant la nouvelle constitution de la 4e République face à ses militants. L'homme à la voix fatiguée mais visiblement détendu déroule les actions qui seront au centre de la nouvelle République. Selon le président Déby, l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution consacre la refondation de la nation qui se veut plus ambitieuse et plus forte. La maîtrise de train de vie de l'État, la rigueur dans la gestion des choses publiques et l'assainissement des finances publiques doivent être au centre des priorités du nouveau gouvernement qui sera mis en place dans les tout prochains jours. Le président Déby annonce également la tenue des élections législatives et locales en novembre 2018 et proclame une amnistie générale pour les Tchadiens qui, pour des raisons ou d'autres, ont quitté le Tchad. Ils peuvent rentrer dignement dans leur pays. Déby s'engage à livrer une guerre sans merci contre ceux qui pensent qu'ils ont le cutis de détourner allègrement les deniers publics. Quelle que soit sa marque et sa puissance, l'enrichissement illicite et immoral doit s'arrêter, a-t-il dit, chose qu'il n'a pas pu faire depuis 28 ans de règne. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Les chefs des services de renseignement de 10 pays d'Afrique centrale se sont réunis ce vendredi à Kinshasa. Ils ont déploré la prolifération des armes légères dans la région. Kalev Moutande, chef de l'Agence nationale des renseignements de la RDC, dans une très rare apparition publique, a déclaré que les groupes d'autodéfense, les milices, les groupes armés, les organisations terroristes, les réseaux criminels transfrontaliers s'arment dans l'objectif de s'attaquer aux symboles de l'État. Au Burundi, le Conseil national de la communication annonce que les radios VOA et BBC seront suspendues de diffusion pendant 6 mois à partir de lundi. La raison, selon Bujumbura, des manquements à la loi régissant la presse et à la déontologie professionnelle. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourounziza.
Selon Karen Garamadani, le président du Conseil national de la communication, CNC en sigle, BBC devrait prendre en compte les principes d'équilibre de l'information et de la vérification rigoureuse des sources quand cette radio traite les informations sensibles sur le Burundi. Concernant Voice of America, Karen a déclaré que la station a violé les dispositions de la loi sur la presse en continuant à diffuser une partie de ses émissions en utilisant une application de diffusion en ligne d'une station de radio dont la fréquence avait été retirée par le CNC depuis cette 2017. Karenga Ramadani a aussi affirmé que la station est allée plus loin en recrutant un journaliste recherché par la justice burundaise. En outre, l'un des services de langue de VOA aurait diffusé en avril de cette année des informations jugées contraires d'une part aux règles de la profession et portant préjudice aux relations du Burundi avec les Nations Unies. Notons aussi que les stations internationales et locales RFI, Isanganiro et CCIB FM+, ont elles été mises en garde. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Nous y reviendrons dans la partie magazine avec une collègue du service Kirundi de la VOA. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio, élu en avril, a effectué ce vendredi une visite à Abidjan avant son investiture le 12 mai pour, dit-il, remercier la Côte d'Ivoire, mais aussi apprendre, selon ses propres termes. Les deux présidents ont évoqué l'aide de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix en Sierra Leone, ravagé par 10 ans de guerre civile jusqu'en 2002, puis lors de l'épidémie d'Ebola de 2013 jusqu'en 2016, et ainsi que des glissements de terrain l'année dernière. Au Kenya, des inondations ont fait au moins 112 morts depuis début mars. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Croix-Rouge kenyane. Le secrétaire général de la Croix-Rouge kenyane, Abbas Goulet, a lancé un appel aux dons de 5 millions de dollars pour venir en aide aux personnes sinistrées dans 32 des 47 comtés du pays. Les réactions se poursuivent au lendemain de la mort de l'opposant historique mozambicain Afonso de la Cama. Lors d'un entretien accordé à la télévision nationale, le président Philippe Nyusi a confié tout son désarroi face à la disparition de son adversaire. « C'est une mauvaise période pour nous », a ajouté le président, qui négociait depuis plusieurs mois directement avec le chef de la RENAMO un accord de paix susceptible de mettre un terme à la rébellion relancée en 2013. De son côté, l'ambassade des États-Unis à Maputo encourage la RENAMO et le gouvernement à honorer l'héritage de la Cama.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche dément avoir demandé au Pentagone de considérer une réduction des troupes américaines en Corée du Sud. Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a fait cette précision quelques semaines avant un sommet historique prévu entre les dirigeants nord-coréens et américains. Donald Trump s'est exprimé ce vendredi à la tribune de la convention annuelle de la National Rifle Association, la NRA, le lobby américain des armes à feu à Dallas. C'est la quatrième année de suite que Donald Trump assiste à cette convention. Nouvelle victoire du régime syrien, des rebelles remettent leurs armes aux forces loyalistes. C'est dans le centre du pays, en vertu d'un accord avec Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nathalie Barche.
Des rebelles et les forces du régime sont parvenus cette semaine à un accord de cessez-le-feu, notamment à Talbissé, Rastan et Al-Oula, dans les provinces de Hamas et Homs. Les combattants sont en train de remettre leurs armes lourdes et moyennes aux forces russes et à celles du régime syrien pour la deuxième journée consécutive, affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les rebelles qui voudront partir seront évacués avec des civils qui bénéficieront d'un passage sécurisé vers la localité rebelle de Jarablos. L'accord prévoit le retour des institutions gouvernementales et la réouverture d'une autoroute entre Damas et Alep. L'agence Sana a fait état de l'entrée d'autocars à Yalda, un quartier de Damas, et à Babila et Beit Sam pour évacuer rebelles et civils dans le nord du pays en vertu d'un autre accord.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a présenté des excuses après des propos considérés comme antisémites sur les causes des massacres perpétrés contre les Juifs dans le passé. Si mes propos devant le Conseil national palestinien ont offensé des gens, en particulier des gens de confession juive, je leur présente mes excuses, a-t-il dit. Le Liban organise dimanche ses premières élections législatives en près d'une décennie, alors que le pays fait face à des années de crise politique et victime collatérale de vives tensions régionales, notamment le conflit syrien. Le pays est une république parlementaire avec une chambre de 128 députés qui respecte la parité entre musulmans et chrétiens. Et puis, plus de 10 000 migrants en Grèce qui espéraient rejoindre le reste de l'Europe ont été rapatriés volontairement vers leur pays d'origine, notamment au Pakistan, en Irak et en Afghanistan. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus des trois quarts des bénéficiaires de ce programme de rapatriement financé par l'Union européenne sont des hommes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manila Kiza qui nous présente la Minute Éco.
Le gouvernement congolais envisage l'exploitation pétrolière dans deux parcs naturels. L'ONG britannique Global Witness affirmait que Kinshasa veut la désaffectation ou le déclassement des zones pétrolières du parc de la Solanga Centre et du parc des Virunga Est. Global Witness rappelle que ce patrimoine est classé à l'UNESCO et demande à Kinshasa de renoncer à son projet. Les Virunga constituent le plus ancien parc naturel d'Afrique. Les réserves pétrolières y sont estimées à 6 758 milliards de barils, avec les recettes budgétaires additionnelles de 7 milliards de dollars. La télévision numérique terrestre TNT, censée être opérationnelle depuis 3 ans en Afrique subsaharienne, progresse toujours à pas comptés. Elle est seulement présente dans 9 des 48 pays qui ont achevé leur transition vers le digital. Ces pays sont tous situés en Afrique australe, orientale ou dans l'océan Indien. Namibie, Zambie, Malawi, Swaziland, Maurice, Tanzanie, Kenya, Rwanda et Ouganda. Le marché de la télévision en Afrique subsaharienne pèse aujourd'hui 4,3 milliards de dollars et conserve un énorme potentiel puisque nettement moins de 40% des foyers sont équipés d'un poste de télévision. Le taux de chômage ici aux États-Unis est tombé en avril à près de 4%, au plus bas depuis 17 ans. L'économie américaine a créé 164 000 nouveaux emplois, un peu moins bon que prévu. Les analystes s'attendaient plutôt à 190 000. Le nombre de chômeurs est descendu à plus de 6 millions et celui des personnes ne trouvant qu'un travail à temps partiel reste obstinément à 5 millions.
À présent, la page des sports avec vous, Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahman. Bonsoir à tous.
La phase de poule de la Ligue africaine des champions.
On commence dans le groupe A, le choc ce vendredi opposant les ténors continentaux Al Ahly et l'Espérance de Tunis, avec une affiche totalement inédite également entre les Botswanais du Township Rollers et les Ougandais de KCCA. Dans le groupe B, le MCLG tentera d'enclencher une nouvelle dynamique positive face aux Marocains du Difa Alassani El Jadida sans complexe. Et puis un autre match, ce sera samedi, l'entente de Sétif face au tout-puissant Mazembe à Lumumbashi. Également demain, une opposition inédite entre l'AS Togo Port et Oroya Alomé. Et puis également les Mamelodi Sundowns face au WAC de Casablanca, ce sera à Pretoria. Et puis l'étoile sportive du Sahel chez les Angolais du Primeiro de Agosto, alors que le Zesco United se mesurera à Mbabane Swallows.
Steven Gerrard, entraîneur des Glasgow Rangers.
Oui, la légende de Liverpool deviendra cet été l'entraîneur des Glasgow Rangers, où il a signé 4 ans pour sa première expérience sur le banc d'un club professionnel. Steven Gerrard, milieu de terrain en 114 sélections avec l'Angleterre, a passé 17 ans à Liverpool. Il a raccroché les crampons en 2016 après une dernière saison au Los Angeles Galaxy. Gerrard entraîné depuis février 2017 l'équipe réserve de Liverpool.
Mauvaise nouvelle pour l'athlétisme au Kenyan.
Eh bien, le contrôle anti-dopage positif à l'EPO d'Asbel Kiprop a été confirmé par l'unité d'intégrité dans l'athlétisme. C'est un organe indépendant chargé des questions d'intégrité et de dopage dans la discipline. Cette unité a également rejeté les accusations d'irrégularité portées par le Kenyan, triple champion du monde et médaillé d'or olympique du 1500 mètres.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Avec 43 points et 14 passes décisives, LeBron James a de nouveau écœuré Toronto hier soir. Toronto qui subit une deuxième défaite d'affilée. Le Cleveland l'a emporté 128 à 110. Dans l'autre demi-finale de conférence, Boston mène 2 à 0. La franchise la plus titrée de l'histoire NBA a battu Philadelphie 108 à 103 devant son public.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le CNC, le Conseil national de la communication du Burundi, va suspendre la diffusion des émissions de La Voix de l'Amérique pour 6 mois à partir de lundi, alors que le pays est en pleine campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai. La décision touche également la BBC. Ce sont principalement les émissions quotidiennes en Kirundi sur la FM qui seront affectées. Et dans un communiqué, la directrice de la VOA, Amanda Bennett, a condamné cette mesure du gouvernement burundais. Notre collègue Jan Ninina Hazwe du service Kirundi de la VOA a obtenu une interview du conseil juridique du CNC, Gabriel Buhumu Gane. Et au micro de Jacques Aristide, Jan Ninina Hazwe nous résume les explications de ce conseil juridique.
Gabriel Buhumu Gane, premièrement, il a mentionné quelques dates, le 4 mai, le 16, le 26 et le 27, il dit que les programmes, les reportages qui ont été diffusés sur les antennes de la VOA, Kirundi Kinyarwanda, n'étaient pas équilibrés. J'ai posé la question, c'était pas équilibré, comment? Il n'a pas vraiment dû dire la raison, mais il a dit des programmes qui n'étaient pas équilibrés, des reportages qui n'étaient pas équilibrés. Autre raison qui a été mentionnée par le Conseil national de la communication, c'est que la VOA n'aurait pas signé le code de conduite qui devrait signer au Burundi avant l'organisation du référendum. Donc il y avait un code de conduite qui a été émis par le CNC qui n'a pas été signé par la VOA. Il l'a un tout petit peu mentionné sans toutefois s'y attarder. Il a dit, nous, on n'est pas là pour sanctionner. On est là pour montrer, là, ça va pas, là, ça n'allait pas, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Donc, si la voie de l'Amérique est ouverte, on peut négocier, on peut les dire ce qu'ils auraient dû faire et des fautes qu'ils ont commises. Donc, si la voie de l'Amérique est ouverte pour négocier, pour parler de tous ces manquements, nous, on est ouverts.
Comment la VOA réagit-elle à cette annonce du gouvernement burundais?
La direction de la Voix de l'Amérique se dit très concernée par cette décision du Conseil national de la communication au Burundi. Amanda Bennett, qui est la directrice de la Voix de l'Amérique, regrette énormément cette décision, mais promet que la Voix de l'Amérique va continuer de donner l'information via les différents canaux qui sont par exemple Shortwave ou les sites internet de différentes langues qu'utilise la Voix de l'Amérique au Burundi.
Quels sont les programmes qui vont être touchés par cette décision?
Pour le programme Kirundi Kinyarwanda, il y a par exemple du lundi au dimanche, on a ce qu'on appelle le call-in, l'émission Mulisanga de toute une heure. Une émission qui engage en même temps les auditeurs, mais également les responsables du pays dans différents domaines. Donc les auditeurs appellent pour poser des questions responsables de différentes institutions au Burundi. Mulisanga qui est de lundi au dimanche. Il y a l'émission Iwanyumunara qui se consacre beaucoup plus sur l'actualité des camps, des réfugiés, mais aussi sur l'actualité provenant des provinces intérieures du pays. Il y a l'édition de 19h30 qui est heureusement retransmise chaque 19h30 sur notre Facebook, mais aussi l'édition de 19h. Il y a d'autres émissions, à savoir la musique, à savoir d'autres émissions des débats politiques qui seront touchées. Mais comme je viens de le souligner, la direction de la Voix de l'Amérique dit que VOA, Juga America ou d'autres programmes qui seront touchés seront sur Shortwave, mais aussi sur les sites des différentes langues de la Voix de l'Amérique.
C'était notre consoeur Jan Ninina Hazwe du service Kirundi de la Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a invalidé une partie des lois électorales contestées dans la rue par l'opposition. Une opposition qui a toutefois décidé de poursuivre sa mobilisation contre le président. Au micro de Morgane Guiriec, l'analyste de Louvassou Rabar, de journaliste à Madagascar.
Alors, il s'agit essentiellement des dispositions qui sont justement contestées par les par les députés de l'opposition. Il y a par exemple cette disposition qui exige que chaque candidat à la présidentielle présente un extrait du casier judiciaire du bulletin numéro 2. Il y a aussi cette disposition relative à la durée de la campagne électorale au deuxième tour. Dans les textes originaux, il est question de seulement 7 jours pour la campagne électorale pour le second tour. Donc la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, a dit qu'il fallait que la campagne soit un peu plus longue que ces 7 jours initialement prévus. La Haute Cour constitutionnelle a également estimé que les campagnes électorales peuvent aussi être financées par des personnes morales de droit privé étrangères, c'est-à-dire les sociétés, les ONG, les entreprises étrangères, alors que dans les dispositions initiales, c'était interdit.
Mais alors pourtant, la mobilisation contre le président se maintient. Pourquoi ?
Parce que justement, ce que disent les députés de l'opposition, c'est que depuis donc le 21 avril, date à laquelle ils sont sortis du Parlement, les revendications, disent-ils, sont montées, sont montées d'un cran. Donc les revendications ne concernent plus seulement les lois électorales, mais vont carrément jusqu'à la demande de la déchéance du président de la République. Il faut aussi noter que pour les députés de l'opposition, il ne s'agit pas seulement du contenu de ces lois électorales, mais ils contestent également la manière dont ces lois ont été adoptées. Ils disent qu'il y a eu de la corruption, ils soupçonnent la corruption des députés partisans du pouvoir dans l'adoption de cette loi. Donc, entre autres, ils demandent aussi à ce que les institutions concernées, la Haute Cour constitutionnelle ou le Bureau indépendant anticorruption, se prononcent sur ces suspicions de corruption contre lesquelles ils ont aussi porté plainte.
La journaliste Louvassou Rabar, jointe à Antananarive. L'autisme, un handicap qui n'est pas suffisamment connu par le corps médical au Togo, qui a du mal à le diagnostiquer. Il est souvent assimilé à la surdité ou à une hyperactivité chez l'enfant. Pour les parents d'enfants autistes, seuls les orthophonistes viennent en aide. La prise en charge des enfants autistes au Togo, un reportage de notre correspondante à Lomé Kailosson.
Y a-t-il des enfants autistes au Togo? C'est la question que nous sommes tentés de poser, car dans le pays, il n'existe aucune statistique relative à l'autisme. Cet handicap est méconnu par la plupart des cliniciens. Pour les parents, c'est le calvaire. Djemila Yakubu a dû attendre 8 ans avant que le diagnostic ne soit posé pour son enfant.
Je l'ai su d'ailleurs tardivement. C'est à 8 ans que moi j'ai su qu'il souffre de l'autisme. C'est par le biais d'une amie qui est à l'étranger, qui a aussi un cas pareil à qui j'en ai parlé, qui m'a dit, bon voilà, en fait, ça s'appelle autisme. L'autisme est inconnu de beaucoup. C'est vraiment pénible pour la prise en charge de nos enfants autistes.
Cette maman de 2 ans enfant autiste décrit le cycle de diagnostic de l'autisme au Togo.
Je peux dire que c'est seulement les orthophonistes qui sont venus à mon rescousse, parce que au début, quand tu dis que ton enfant a ça, ça on te trimballe un peu partout chez le neurologue. Tout ça là, vous faites des trucs, des scanners, des trucs, on ne voit rien, donc l'enfant est toujours dans son état, et puis après, c'est les séances d'orthophonie.
Les difficultés de la prise en charge médicale sont entre autres relatives au manque de personnel qualifié, affirme Carrie Laure Athé. Il est orthophoniste et prend en charge des enfants autistes.
Les difficultés sont énormes. D'abord, au niveau des structures de soins, nous n'avons pas encore le plateau technique dont il faut pour pouvoir diagnostiquer ces troubles-là. Les outils que nous avons aujourd'hui en tant qu'orthophoniste que nous utilisons sont des outils qui sont importés de France et qui ne sont pas adaptés à notre culture ici actuellement. Mais nous essayons de les adapter au mieux à notre culture pour pouvoir poser un diagnostic. Malheureusement, actuellement au Togo, il n'y a que les orthophonistes qui posent réellement le diagnostic de l'autisme. En plus, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On n'a pas de psychomotriciens qui vont poser leur diagnostic, les psychologues qui vont poser leur diagnostic, et donc on a un petit souci dans ce sens-là.
Pour la scolarisation, c'est une autre paire de manches.
Pour l'école, c'est pénible. Lorsque vous amenez l'enfant, il est agité, donc il est rejeté. les rejeter. On dit qu'il va frapper d'autres enfants. Donc, c'est ce que nous vivons. C'est d'ici, il faut faire vraiment le tour pour pouvoir avoir une école pour ses enfants. Mon enfant, bientôt, il aura 10 ans. Il est scolarisé, mais à la maternelle.
Il y a 3 ans de cela, je voulais inscrire mes enfants. Je suis passée par plein d'écoles. Ils m'ont chassée. Ils disent qu'ils n'ont pas de place pour mes enfants. Et ils ont 7 ans et 5 ans. La plus petite a commencé par parler. Le grand, c'est...
Edwige Bédé, la présidente de l'association Autisme Vivre et Grandir à Vège, a un grand rêve qu'elle nous dévoile.
Créer un centre spécial pour les enfants autistes et les suivre dès le bas âge. Parce que le suivi précoce leur facilite la vie et facilite la vie aux parents. Comme ça, ils viennent dans le centre. On essaie de leur apprendre l'autonomie, beaucoup de choses comme ça. Après, quand ils veulent aller dans l'école, une école normale, un griffe normal, ils ne seront plus stigmatisés comme cela se fait maintenant. Et puis, ils pourront rester avec les autres enfants.
Dans sa stratégie, l'association Autisme Vivre et Grandir veut apporter une lueur d'espoir aux personnes touchées par les troubles du spectre autistique en combattant la stigmatisation et en assurant le référencement pour le diagnostic et la prise en charge. Kaylosson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Sim Sloumani. C'est Valmond aujourd'hui. Restez en contact sur VO Afrique et sur notre site voafrique.com.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendant du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company, la compagnie de distribution pétrolière Niak et Fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Hedon Howard. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Hedon Howard. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.